VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
11h à Ouagadougou, midi à Yaoundé, bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara réélu pour 5 ans dès le premier tour. C'est ce qu'annonce ce matin la CEI, la Commission électorale indépendante. Notre envoyé spécial Tatiana Mosso est à Abidjan, son témoignage.
C'est une victoire sans surprise pour le candidat du RHDP Alassane Ouattara. Avec 83,72% des suffrages, le président sortant obtient donc son deuxième mandat. Très loin devant ses adversaires, derrière lui, pas un seul des autres candidats ne dépasse les 10%. Le résultat de ce scrutin semble laisser penser qu'Ado était seul dans la course. Arrivé en deuxième position avec 9,25% des voix, Pascal Affine-Guessant du FPI, le Front populaire de l'ancien président Laurent Gbagbo. En troisième, Kwadjo Konan-Bertin avec un minimum de 3,84%. Souvenez-vous, dès lundi soir, c'est ce dernier qui avait déjà félicité Alassane Ouattara pour sa victoire. Il s'en était suivi deux autres candidats dans la journée de mardi, reconnaissant ainsi leur défaite avant même la proclamation partielle des résultats. Quant à la polémique sur le taux de participation, la CEI a finalement revu à la baisse les 60% annoncés lundi. 54,63% du taux de participation, c'est ce qui était proche du chiffre annoncé par la société civile.
Tatiana Mosso à Abidjan. Au Burkina Faso, poursuite des enquêtes sur le coup d'État manqué de septembre. Plus d'une vingtaine de personnes ont été placées en détention, des militaires pour la plupart. Les généraux Gilbert Diendéré, leader du putsch, et Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères du président Blaise Compaoré, sont aux arrêts. Par ailleurs, un certain nombre de hautes personnalités de l'État ont été limogées par les autorités. Exemple, la directrice de la communication et le chef du protocole du président de la transition, Michel Cafando, ainsi que le directeur de la sécurité intérieure, le colonel Omer Bationo. Pour en savoir davantage, Bagassi Koura a joint à Ouagadougou Bourayma Ouédraogo, directeur du journal Le Reporter.
En gros, ils étaient 22 la semaine dernière, maintenant je crois qu'ils sont passés à 24 ou 25, dont deux civils pour l'instant, tout le reste apparemment ce sont des militaires.
Il y a aussi le directeur de la sécurité intérieure qui a été démis ce jeudi. Hein. Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce que c'est lié au putsch?
Mais le directeur de la sécurité intérieure, c'est déjà un ancien chef de corps du RHP, sans avoir forcément les motivations exactes effectivement qui ont présidé à son limogeage. Tout porte à croire qu'on lui reproche, à défaut d'être impliqué, au moins de n'avoir rien fait pour empêcher le coup. Peut-être, en tout cas, ce qui est sûr, la confiance entre lui et les autorités de la transition ne semble pas au beau fixe.
Et comment est-ce que le public réagit à tout cela, à toutes ces interpellations?
Ce qui est paradoxal, c'est qu'on a comme l'impression à la fois qu'il y a il y a comme une sorte d'indifférence, mais en même temps, il y a un intérêt parce que le public, effectivement, suit attentivement. Mais au fond, on ne sent pas des signes extérieurs, effectivement, d'expression de cette impatience. Mais quand on discute avec les uns et les autres, on se dit que, bon, le plus important, c'est d'aboutir à un véritable procès qui permet de tirer au clair et de citer les responsabilités des uns et des autres, y compris les acteurs politiques qui sont suspectés d'être complices ou acteurs du putsch.
Alors, est-ce qu'on sent que les politiques sont en train de reprendre le dessus et qu'on sent un peu la campagne électorale, puisque les élections, c'est pour le 29 novembre?
Pour le moment, on ne sent pas trop la campagne électorale. Je crois aussi que les questions sécuritaires y sont pour quelque chose. Mais on sent qu'il y a un travail souterrain qui est en train de se faire au niveau des différents états-majors.
Bourayma Ouédraogo du journal Le Reporter à Ouagadougou. Et puis au Nigeria, plus de 300 femmes et enfants retenus par le groupe islamiste Boko Haram dans le nord-est du pays, libérés par l'armée. C'est ce qu'annonce aujourd'hui un communiqué des forces armées nigérianes. Les militaires ont secouru au total 338 personnes retenues en captivité par les extrémistes lors d'opérations hier dans la région de la forêt de Sambisa, un bastion des rebelles, précise-t-on à Abuja.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Congo-Brazzaville, appel de l'opposition à la désobéissance civile suite à l'approbation du référendum constitutionnel de dimanche. La réaction de la France à la nouvelle charte fondamentale ne s'est pas fait attendre. Idriss Fall.
Selon le communiqué de l'Élysée, la France prend note des résultats du référendum, mais les conditions dans lesquelles il a été préparé et organisé ne permettent pas d'en apprécier le résultat, notamment en termes de participation. Avant le scrutin, le président François Hollande avait souhaité que les constitutions soient respectées et que les consultations électorales se tiennent dans des conditions de transparence incontestables. Le projet de nouvelle constitution soumis au vote dimanche doit permettre au président Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016. Le ministre congolais de l'Intérieur a annoncé hier qu'il a été approuvé par 92,96% des voix avec un taux de participation de 74,44%. Ces résultats ont aussitôt été dénoncés comme une tricherie par l'opposition qui a appelé mardi à la désobéissance civile pour le retrait pur et simple de ce texte.
D'après les résultats officiels du référendum, donc, le oui l'a emporté à 92,96% et il s'agissait bien sûr de Trésor Chardon-Zila Kendet, qui est directeur de l'Observatoire des droits de l'homme à Brazzaville. Donc on l'écoute au micro d'Idriss Fall.
Ces résultats sont tronqués, ils ne reflètent pas la réalité. Les Congolais, en grande majorité, ont boudé les urnes. Il y a eu très peu de mobilisation, que ce soit dans les grandes agglomérations, Brazzaville, le Pointe-Noire, Belleville, et même à l'intérieur du pays.
Quelles sont les preuves que vous avez? Est-ce que vous aviez des observateurs dans tous les bureaux de vote et dans toutes les villes?
Il n'est pas évident de dire que nous avons des observateurs dans tous les bureaux de vote. C'est exagéré, mais nous avons des informations venues de partout qui nous permettent de dresser une tendance générale sur le déroulement du scrutin.
Maintenant, quelle sera la suite si la nouvelle constitution est adoptée?
Si la nouvelle constitution est adoptée, c'est ce qui est fort regrettable. La constitution va passer, mais ce qui reste à faire, c'est la bataille de la gouvernance électorale. Il faut qu'on ait un fichier électoral fiable, une commission électorale véritablement indépendante pour garantir la sécurité du scrutin de 2016.
Qu'en est-il des militants de l'opposition qui étaient assignés à résidence?
Actuellement, ils sont toujours assignés à résidence. Les droits et les libertés politiques sont bafoués. C'est tout à fait inadmissible de voir que les opposants soient assignés à résidence. Que le procureur de la République qui est censé garantir les droits et libertés des citoyens est silencieux.
Trésor Chardon-Zila Kendet, directeur de l'Observatoire congolais des droits de l'homme à Brazzaville. Au Tchad, le président Idriss Déby a limogé son frère cadet Salehi Déby de la Direction générale des douanes le week-end dernier. Une mesure qui vise à assainir les finances publiques. Le point avec notre correspondant N'Djamena, André Kodmajingar.
Tout est parti de l'application de la feuille de route issue du séminaire gouvernemental tenu du 6 au 7 octobre dernier à N'Djamena sur la stratégie de mobilisation des ressources et de maîtrise des dépenses publiques selon les informations proches de l'enquête. Le gouvernement aurait demandé à l'ex-directeur général des douanes Salehi Déby de verser les recettes douanières au trésor public, mais ce dernier a opposé une fin de non-recevoir. Très en colère, le gouvernement, à travers son secrétariat général, a déposé une plainte contre lui au parquet de première instance de N'Djamena le vendredi 23 octobre pour détournement de deniers publics et enrichissement illicite. Par un décret présidentiel signé le même jour, l'ex-tout-puissant directeur général des douanes, frère cadet du président Idriss Déby Itno, est limogé et aussitôt mis aux arrêts par les éléments de la DGCIO, Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, et placé à garde à vue dans les locaux de la police judiciaire. Non seulement le gouvernement lui demande de justifier sa fortune estimée à 15 milliards de francs CFA et les recettes douanières qu'il aurait logées dans ses comptes privés, mais de réparer les préjudice subi par l'État. André Kodmajingar, N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
En Libye, au moins 9 personnes tuées hier lorsque l'hélicoptère qui les transportait a été abattu près de Tripoli. Et puis, pour terminer, nous avons le vote quasi unanime mardi à l'Assemblée générale de l'ONU pour la levée de l'embargo américain contre Cuba. À l'exception des États-Unis et d'Israël, les 191 autres pays membres de l'ONU se sont prononcés en faveur de la résolution non contraignante demandant la fin de l'embargo imposé à Cuba depuis 1962. Le texte cette année a aussi salué le rétablissement, il y a 3 mois, des relations diplomatiques entre La Havane et Washington et la volonté exprimée par le président Barack Obama de mettre fin à l'embargo. Cette décision, toutefois, ne peut être prise que par le Congrès, actuellement dominé par les Républicains, qui s'oppose au rapprochement avec Cuba. Les États-Unis ont voté contre le texte car il ne reflétait pas les étapes significatives qui ont été franchies et l'esprit d'engagement défendu par le président Obama, a expliqué pour sa part le représentant américain Ron Goddard. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.